Quand l'équipe de jeunes, donc c'était Marco entre autres qui est un des associés, ils sont arrivés, ils étaient trois. Ils faisaient partie en fait d'une association qui s'appelle École pratique de la nature et des savoirs, qui est basée à Minglon.
L'idée de cette association, c'est issue de la rencontre entre Éric Julien et les Kogi en Colombie, où il a monté une première association qui s'appelle Chendukua, qui visait à racheter des terres pour ses Indiens. Et en fait, à un moment, ils l'ont interrogé en lui demandant que... En fait, il s'attaquait à la conséquence d'un problème plus qu'à sa cause. C'est pas juste racheter des terres qu'il faut faire, mais c'est aussi essayer de faire réfléchir un peu notre société, on va dire, le monde dans lequel on est. Quel lien on a au vivant? Quel rapport à la nature est-ce qu'on développe aujourd'hui? Et du coup, de là est née cette deuxième association, l'École pratique de la nature et des savoirs. Donc quand je suis arrivé en 2012, c'était principalement des formations grand public. Et en fait... On a fait un diagnostic territorial sur le potentiel de développement de la permaculture sur la Biovallée. Voilà, et donc un des résultats, c'était principalement qu'il nous fallait des sites un peu expérimentaux, des sites pilotes. C'est ce qui nous a aussi motivés, avec du coup deux autres jeunes de l'association à l'époque, à reprendre cette ferme, qui en fait est une ferme qui avant était à trois autres associés, et dont l'un des associés était Thierry Geffray, donc membre de cette association, l'École pratique de la nature et des savoirs, et un des fondateurs de la Biovallée. Et moi, c'était mon maître de stage quand je faisais ce diagnostic territorial.
Et donc le but, c'est de réfléchir sur un territoire entier, puisque là, en gros, on a 1000 hectares. Alors ça paraît énorme, c'est énorme, mais c'est beaucoup des forêts, des landes, de la falaise. On a 45 hectares arables.
Ici, on n'avait plus un arbre à un moment donné, mais plus un arbre. C'est-à-dire, tout avait été brûlé pour la cuisine, pour l'extraction, pour le bois d'œuvre et le bois de chauffage. C'était... Alors là, pour le coup, on arrivait au désert, quoi. Et aujourd'hui, quand vous voyez la biodiversité qui s'est réimplantée, quelque part, c'est lié aussi à l'importance de la déprise humaine. Avec la déprise humaine, ce que l'on a vu, c'est le réensauvagement. C'est-à-dire que la nature a repris ses droits. Et ça donne assez confiance dans la nature. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin des hommes, surtout pas. Quelque part, elle fait la démonstration qu'elle se démerde toute seule, quoi. Et ça, on l'a fait dans le Haut-Diois, on l'a vu, quoi. On l'a vu à l'œuvre, la nature. Et c'est beau à voir, quoi. Dans le récit territorial, on serait plutôt aujourd'hui dans ce que j'appellerais un pacte écologique, c'est-à-dire comment ensemble habiter cette vallée de la Drôme en conscience, en précaution par rapport aux ressources qu'on y trouve. C'est ça le pacte écologique, c'est-à-dire c'est l'humain qui regarde son environnement et qui dit « bon, on va faire attention maintenant, on va pas faire n'importe quoi avec le gravier, avec différentes ressources et tout ça, donc on va faire attention, ok ». L'étape peut-être suivante, ce serait ce que a amené en termes de concept Michel Serres, le contrat naturel. Donc ce serait pas simplement habiter en conscience le territoire, mais aussi être habité par le territoire. Et être habité par le territoire, c'est rentrer dans un dialogue, rentrer dans l'accueil d'une imprégnation. En quoi un territoire, à un moment donné, peut être enseignant pour ses habitants? Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans ce dialogue et cette façon de prendre notre place en tant qu'humain, mais avec le non-humain. C'est-à-dire, on n'est pas les seuls à gérer, à contrôler, à faire de l'extraction. On est parmi d'autres qui sont des non-humains.
Avant, on avait des transmissions familiales, donc on avait des jeunes qui, avec leurs parents, apprenaient comment fonctionnaient leurs écosystèmes. C'était quoi les grands équilibres, les endroits importants, l'arbre mort qui servait de support aux rapaces, qui allait manger les ravageurs, qui faisait qu'on avait moins à travailler le sol, etc. Aujourd'hui, c'est souvent des néos qui arrivent d'ailleurs, et en fait, c'est un reset complet par rapport à la connaissance de l'écosystème. Et c'est ça qui...
fait qu'à mon avis on en est là aujourd'hui, parce que même avec la meilleure intention du monde, le temps d'apprendre et de comprendre les mécanismes, comme dirait l'ancien qui nous a transmis d'être habité par le territoire, et ben en fait on fait forcément des erreurs. Le fait d'avoir une ferme en collectif, ça fait que même si on en a un qui s'en va, les autres sont porteurs de ce message et de cette mémoire, et ils vont pouvoir transmettre derrière et qu'il y ait une continuité. Avec le réchauffement climatique, ça fait 2-3 ans qu'on commence à être vraiment limite en termes de quantité d'eau pour le village. Si on fait un peu de lecture de paysage chez nous, en haut, on voit qu'on a des falaises. En fait, nos parcelles, c'est que des éboulis. Donc en fait, ça correspond à il y a quelques millions d'années, tout ça, ça a dû s'effondrer. La chance que ça nous amène, c'est que sous les falaises, en fait, on a des pierriers. Et les pierriers, c'est vraiment les zones qui sont les plus infiltrantes. C'est-à-dire que quand il pleut sur du caillou, bah, l'eau elle va pas ruisseler, elle s'infiltre dans la terre juste en dessous. Et ça, c'est en hauteur dans notre paysage, donc ça nous permet d'alimenter assez vite les nappes phréatiques qui sont en dessous et de constituer les réserves. La deuxième chose, c'est les forêts, parce que c'est pareil, les forêts sont des zones super infiltrantes, donc ça aussi, on les a plutôt en hauteur dans notre paysage. Les forêts, je sais pas si vous avez vu, nos forêts de pins, elles sont couvertes de gui. Donc justement, un indicateur qu'elle commence à être un peu en stress hydrique. Le gui, il arrive pour les aider à passer un peu plus de temps. Il va fixer le goût atmosphérique et il va leur restituer, justement. Clairement, l'ONF le dit aussi, hein. Dans 10-15 ans, nos forêts de pins, il y a de grandes chances qu'elles ne soient plus là. Mais l'étape d'après, c'est le feuillu, normalement. Et donc là, nous, c'est assez spécial en tant qu'éleveurs. En 2013, on a fait 80 brebis tuées, 50 disparus, 18 attaques de loups dans la saison. Et pourtant, on est plutôt pro-loup. C'est-à-dire que en fait, le loup, quand on regarde ce qui se passe au Yellowstone, ben, en fait, il fait bouger les grands troupeaux d'herbivores et c'est ce qui permet à l'écosystème de se reconstituer. Aujourd'hui, nos petits feuillus qui sont en train d'émerger, je vous ai dit, on a énormément de cervidés. On a 2-3 arbres d'une quinzaine d'individus facilement. Si le loup n'était pas là, clairement, les feuillus, ils auraient du mal à émerger. Donc heureusement qu'il est là pour les faire bouger et faire en sorte que la forêt puisse se régénérer un petit peu. Ce qu'on a observé l'année dernière aussi, c'est que justement, on avait perdu une vache, donc on avait mis des caméras pièges au sommet de la montagne, sur un abreuvoir qu'on a là-haut. Et dans la même nuit, on a eu 5 loups, on a eu une quinzaine de cerfs, on a eu une dizaine de sangliers, on a eu le blaireau, on a eu le chamois. Voilà, vraiment dans la même nuit. Hein. Donc un passage de faune qui était exceptionnel. Et en fait, on s'est rendu compte que on a beau être une commune 100% bio, etc., mais en fait, la présence simplement des agriculteurs, des chasseurs, des promeneurs, bah fait que la biodive, elle va là où on n'est pas trop. Sauf que qui c'est qui régénère dans la nature, justement, qui génère le vivant? Bah c'est les animaux. Donc en fait, il faut vraiment qu'on trouve un moyen qui revienne plus près et qui soit plus dans nos forêts. Donc on travaille sur planter des essences feuillues qui nous intéressent dans les forêts. Mais en fait, on est aussi en train de travailler sur tout un axe, ça c'est ce qu'on va développer cette année, où à chaque source qu'on a, on va aller faire une petite mare de façon à ce que la biodive puisse en profiter un maximum, mettre ces zones hors chasse et en principe hors promeneur aussi, de façon à créer en fait un corridor de zones un peu sanctuaires pour la biodive, pour que les animaux puissent circuler du haut de la montagne et retourner jusqu'en bas, parce qu'en fait en bas on a des milieux assez exceptionnels, mais où pareil, on a une biodive qui est assez phénoménale, donc comment est-ce qu'on connecte ces deux milieux de façon à ce qu'en fait les animaux régénère notre forêt spontanément. On a 800 hectares de forêt, si on doit faire ça par nous-mêmes, on va y passer pas mal de temps, d'énergie, etc. Parce qu'en fait, voilà, on s'est vraiment rendu compte de ça au retour du castor. Nous, on a le castor qui est venu s'implanter sur une de nos parcelles il y a 4 ans. On n'a pas bien compris ce qu'il faisait au début. Il a fait un fossé au milieu d'une de nos prairies sèches, mais vraiment un fossé, hein, avec de la boue, il n'y avait pas de morceaux de bois, rien du tout. Et un fossé qui traversait la parcelle dans son milieu, quoi. Voilà. Et en fait, c'est l'année d'après que ça s'est complètement immergé, donc une retenue d'à peu près 2000 m² quand même, sur une parcelle de 5000 m². Et donc une prairie vraiment sèche à la base, qu'on pouvait pâturer une fois par an en termes de quantité, et un ruisseau qui faisait peut-être 60 cm de large et qui était un ruisseau temporaire. Quand il est arrivé, donc il a immergé tout ça, le ruisseau est devenu permanent, et nous, la végétation s'est complètement transformée. C'est-à-dire que de notre prairie sèche, on est passé à une prairie pleine de légumineuses hyper diversifiées et tellement dense qu'en fait, on pourrait la pâturer 3 à 4 fois par an, on pense. Mais voilà, du coup, une évolution de la végétation assez spectaculaire, et notamment en termes d'arbres. Lui, il nous fait disparaître systématiquement tous les pins. On a même des endroits où on le voit juste écorcer le tour des pins, mais systématiquement, hein, il y a peut-être une cinquantaine de pins, chaque pin, il a enlevé l'écorce autour, et les pins commencent à mourir. Et par contre, à chaque fois qu'il mange un peuplier, de toute la surface des racines qu'il y a en dessous, il y a des peupliers qui réémergent et qui repartent. Il est vraiment sur un principe de recéper les arbres. Et du coup, bah, petit à petit, ces peupliers se propagent et se propagent et se propagent et créent en fait des milieux qui génèrent de l'eau. Donc en fait, quand on n'a pas la nature et la biodiversité qui peut faire les choses, bah, c'est bien de le faire. Mais c'est comme ça qu'on s'est orienté sur plutôt, bah, là maintenant, on essaye de faire venir le castor vraiment ici au pied de Mont-Lahuc. Là, il est à 1 km dans le ruisseau qui est en bas à Bellegarde. Mais du coup, on s'est dit, voilà, si on arrive à le faire venir jusque chez nous, le castor avec ses barrages, il remonte le niveau, il remonte la hauteur d'eau. Et en fait, un cours d'eau en santé, l'eau devrait être à hauteur des berges. Et c'est ce qui fait qu'il y aurait de l'eau énormément dans nos parcelles à la même altitude et que ça profiterait à nos parcelles aussi.